Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, si vous vous rappelez, lors du premier culte de l'année, Norbert avait un petit peu donné les deux axes qu'on allait explorer en Église. Le premier axe, c'était sur développer notre témoignage en tant que communauté. Et Fred et Loïc l'ont abordé ces derniers dimanches. Et le deuxième thème qui était abordé, c'était grandir en Jésus-Christ. Et c'est ce thème que nous allons faire ce matin. On va faire les différents thèmes dans le semestre en parallèle. Et là, ce matin, je vais commencer par introduire ce thème. Et principalement, ce matin, on va parler de l'aspect relationnel. Et on va mettre même le focus sur notre relation avec Dieu. Alors, on pourrait peut-être se dire, mais la relation les uns avec les autres, c'est important aussi. Jésus nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Et puis avoir une juste appréciation de moi-même devant Dieu, c'est important aussi, tout à fait. Et on va mettre quand même l'accent, parce qu'on ne peut pas tout voir, sur la communion avec Dieu spécifiquement, sachant que cette communion va produire le fruit de l'esprit, qui va produire l'amour envers les frères. Et sachant que dans cette communion aussi, je vais me retrouver comme sauveur pécheur sauvé par grâce. Et donc, ça va éviter à la fois l'écueil d'une estime de soi orgueilleuse, parce que je suis un pécheur sauvé par grâce, je suis pour rien, et à la fois le misérabilisme, parce que la Bible sans cesse me rappelle que je suis adopté, bien-aimé de Dieu, que je suis l'objet de sa grâce, et dans sa communion, le Seigneur va déverser son amour dans notre cœur. Donc, on va axer sur la communion avec Dieu ce matin. Et Jésus lui-même, lorsqu'il prit son Père en Jean 17, présente la vie éternelle, non pas comme une vie sans fin, mais avant tout comme une qualité de vie qui consiste à connaître Dieu, à connaître Jésus-Christ. Regardez le début de sa prière dans Jean 17, versets 1 à 3. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, fais éclater la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Donc on voit que Jésus a reçu autorité, a reçu tout pouvoir pour donner la vie éternelle. C'est la mission qu'il est venu accomplir, envoyée par son Père. C'est leur désir, nous donner la vie éternelle. Et le verset suivant nous éclaire sur la qualité de cette vie éternelle. Or, au verset 3, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. On voit que le Seigneur Jésus définit cette vie comme une vie de relation avec Dieu avant tout. C'est le connaître lui, Dieu, et son Fils Jésus-Christ. En fait, sans Jésus-Christ, qui a résolu le problème du péché qui nous séparait de Dieu, il n'y a pas de connaissance de Dieu possible. Et cette vie éternelle, ce n'est pas un don séparé de Dieu, séparé du donateur. C'est en la connaissance de Dieu lui-même, de Jésus-Christ, qu'elle plonge ses racines. Elle trouve sa source en sa personne. Elle est communion avec lui qui est la vie, qu'il a en lui-même et qui veut nous la communiquer. Elle est participation à la vie même de Dieu. Déjà, dans l'Ancien Testament, les prophéties qui annonçaient la nouvelle alliance, celle à laquelle nous vivons depuis Jésus, la disaient caractérisée par la connaissance de Dieu. Le prophète Jérémie en a parlé. Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 34. « Mais des jours viennent, déclare l'Éternel, où moi je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas celle comme celle que j'ai conclue avec leur père quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, car cette alliance-là, ils l'ont rompue alors que moi j'étais leur suzerain, l'Éternel le déclare. Mais voici quelle alliance je conclurai avec le peuple d'Israël. » Donc on voit que cette alliance, elle va être différente. Dieu va marquer une différence, on va voir laquelle. Après ces jours, déclare l'Éternel, je, c'est une œuvre du Seigneur, placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je la graverai sur leur cœur. Moi, je serai leur Dieu, eux, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre en répétant chacun à son compagnon ou son frère, il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, l'Éternel le déclare, car je pardonnerai leurs fautes et je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Dans l'ancienne alliance, Dieu avait sauvé son peuple d'Égypte. Le peuple connaissait donc ses hauts faits. Sa volonté avait été révélée, en partie par la loi gravée sur des tablettes de pierre au mont Sinaï. Mais pour la majorité du peuple, elle restait un code extérieur à leur cœur. Et ce qui est proposé dans la nouvelle alliance, c'est que la loi de Dieu soit gravée non plus sur des tablettes de pierre seulement, mais sur nos cœurs, que nous puissions le connaître de l'intérieur, des plus petits aux plus grands, comme il est dit dans cette prophétie de l'Ancien Testament. À l'époque de l'Ancien Testament, il y avait le grand prêtre qui était Ouen, c'est-à-dire qui avait reçu l'Esprit, le roi, les prophètes, mais assez peu, en dehors de ces catégories, connaissaient Dieu de l'intérieur. Jésus vient accomplir les prophéties, pardonner les péchés, ce qui nous donne accès à Dieu. Vous rappelez, Jérémie, car je pardonnerai leurs péchés. Ce qui permet la régénération de nos cœurs par le Saint-Esprit. Notre prophète, Ézéchiel, dans le chapitre 36, dit qu'il transformera nos cœurs de pierre en cœurs de chair par l'Esprit qu'il placera en nous. Jésus est donc venu accomplir ses prophéties. Il donne la vie éternelle, c'est un don, nous en sommes les bénéficiaires par pure grâce, et nous avons la possibilité, donc il donne la vie éternelle à ceux qui viennent à lui, évidemment, et nous avons la possibilité de croître en lui, de développer notre communion avec nous. C'est toute la richesse de la nouvelle alliance, c'est à ce à quoi on est appelé. Excusez-moi. Et si l'on balaye rapidement ce thème de la communion avec Dieu, de sa présence dans la Bible, on se rend compte qu'elle est considérée comme la bénédiction principale, comme le trésor à chérir. Dès le début, lors de la création, si on part de la Genèse, l'homme et la femme sont placés dans le jardin d'Éden, le jardin des délices. Et dans ce jardin, rempli de toutes sortes d'arbres portant des fruits délicieux, il y a aussi au milieu, donc il est vraiment pleinement accessible, l'arbre de vie qui représente ou symbolise la communion avec Dieu. Et Adam et Ève sont encouragés à manger de tous les fruits, dont celui de l'arbre de vie. C'est un encouragement à la communion avec Dieu, à une vie, à vivre dans la vie de Dieu. Seul l'arbre de la connaissance du bien et du mal est interdit. Et l'homme et la femme désobéissent, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils ne peuvent plus goûter l'arbre de vie. L'accès à l'arbre de vie est perdu. L'accès à la vie de Dieu est perdu. Regardez ce que dit Genèse 3, 22-24. C'est à la fin où il y a le dialogue entre Dieu et Adam et Ève, juste avant qu'ils soient chassés. Voici ce que dit Dieu, avant de chasser Adam et Ève du jardin d'Éden suite à leur désobéissance. Chapitre 3, verset 22. Puis il dit, « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour décider du bien et du mal. Maintenant, il ne faudrait pas qu'il tende la main pour cueillir aussi du fruit de l'arbre de la vie. » qu'il en mange et qu'il vive éternellement. Alors l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il travaille le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden avec une épée flamboyante tournoyée en tous sens pour barrer l'accès de l'arbre de vie. L'accès à la pleine présence de Dieu de bénéficier Adam et Ève est perdu. L'arbre de vie auquel Dieu les avait invités à manger n'est plus accessible. La justice de Dieu, représentés par l'épée des chérubins, leur barre le chemin de la communion, de l'arbre de vie, à cause de leur péché. Il y a un livre écrit pour les enfants qui s'appelle « La plus belle histoire du monde » par Kevin DeYoung, et il qualifie ce jour de deuxième jour le plus triste de l'humanité, le premier étant celui de la crucifixion de Jésus. Et toute l'histoire de l'Ancien Testament va nous rappeler cette perte tragique. Par exemple, dans le tabernacle ou le temple, plus tard, qui sont les lieux où le peuple sont conviés à adorer Dieu, à recevoir son pardon pour leurs fautes, où la présence de Dieu est concentrée, et bien dans ce lieu-là, seuls les prêtres pouvaient s'approcher de Dieu dans le lieu saint, et pas tous, c'était un prêtre qui était tiré au sort parmi les membres de sa classe. Et dans le lieu très saint, il y avait une séparation entre le lieu saint et le lieu très saint par un rideau, un seul homme, le grand prêtre, qui devait être de la lignée d'Aaron, pouvait s'y présenter. Et une seule fois par an, et il devait offrir un sacrifice à la fois pour lui-même et pour le peuple d'Israël. On ne s'approchait pas de Dieu comme on le voulait. En passant, c'est toujours le cas, hein, c'est seulement et uniquement par Jésus-Christ que l'on vient à Dieu. Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus en Jean 14. Alors, c'est ouvert à tous, contrairement à avant, mais par contre, il y a un seul chemin, c'est Jésus. Donc, tout était là pour rappeler au peuple qu'il était impur, par exemple, toutes les lois sur ce qui était pur et impur, qu'il était pécheur face à un Dieu saint et qu'il avait besoin de son pardon. Jésus-Christ arrive, il accomplit les prophéties, il va renverser la malédiction, il va permettre à nouveau de retrouver la communion. Et lorsqu'il meurt sur la croix, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, celui de la présence de Dieu, est déchiré, et est déchiré en partant du haut vers le bas. Aucun homme ne le fait, cela vient de Dieu, c'est son œuvre. Et une nouvelle fois, c'est lui qui prend l'initiative. Et actuellement, grâce à Jésus-Christ qui nous a ouvert le passage dans le lieu très saint, rappelez-vous, le grand prêtre, c'était seulement une fois par an et une seule personne. Nous pouvons entrer dans la présence de Dieu à tout moment. Et Hébreux 4,16 nous dit « Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. » Il reste saint, mais son trône, sur lequel il est quand même qualifié de Dieu de grâce parce que sa grâce a pourvu au moyen pour régler le problème de notre péché. C'est toute la différence. Et nous n'avons pas à présenter un sacrifice. Il a été fait une fois pour toutes par Jésus. Et c'est lui-même qui s'est offert comme sacrifice pour nous. Hein. Donc, comme nous l'avons vu tout à l'heure, l'accès à l'arbre de vie avait été perdu. Et c'était là la plus grande perte. Celle de la perte de la communion avec celui qui est la vie, qui possède la vie en lui-même. Et c'était tellement important que Dieu lui-même m'a donné sa vie pour que j'ai à nouveau accès à la sienne, et ce dès à présent, grâce à Jésus-Christ. Et à la fin, lors de la restauration finale de toutes choses, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, la plus grande des bénédictions, celle dont tous les autres découlent, ce sera la présence de Dieu. Regardez l'Apocalypse 21, lorsque les nouveaux cieux et la nouvelle terre sont établis, au verset 3 et 4. Et j'entendis une voix forte venant du trône qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux. » Voilà la plus grosse bénédiction. Ils seront ses peuples et lui, Dieu avec eux, voilà comment Dieu est appelé, sera leur Dieu. Il essuiera les larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Toutes les bénédictions qui suivent sont la conséquence de la bénédiction principale, la plénitude de Dieu est là. Actuellement, Jésus nous a ouvert l'accès au lieu saint, mais c'est par la foi. Là, nous le verrons face à face, tel qu'il est. Nous connaîtrons Dieu comme il nous connaît. Et plus loin dans le passage, il nous est dit au verset 6, « À celui qui a soif, je donnerai moi à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. » Toujours dans l'Apocalypse, un peu plus loin, au chapitre 22, il est à nouveau question de l'arbre de vie, et cette fois, il est pleinement accessible en abondance. Apocalypse 22, versets 1 à 5. « Au milieu du fleuve d'eau de la vie se trouve l'arbre... » Voilà, excusez-moi, hein. On va le voir. Excusez-moi, je vais lire le passage. Alors, finalement, l'ange me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de l'avenue de la ville, entre deux bras du fleuve, se trouve l'arbre de vie. Il produit 12 récoltes chaque mois, et chaque mois il porte son fruit. Ses feuilles servent à guérir les peuples. Il n'y aura plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront sa face et porteront son nom sur leur front. Il n'y aura plus jamais de nuit. On n'aura donc plus besoin ni de lumière, d'une lampe, ni de celle du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière et ils régneront éternellement. » Donc on voit dans ce passage qu'au milieu du fleuve d'eau de la vie se trouve l'arbre de vie qui produit d'abondantes récoltes et la communion entre Dieu et son peuple est pleine. C'est ce que Dieu a toujours voulu. Cela avait été perdu au jardin d'Éden, cette communion, elle est retrouvée. Mais plus que cela encore, elle atteint une qualité supérieure au commencement, une plénitude. Et on voit que la gloire de la deuxième création est plus grande que celle de la première. La communion avec Dieu est présentée comme pleine, plus que parfaite. C'est le but de Dieu qui est pleinement réalisé, c'est ce qui va se passer. Et si on réfléchit bien, ce n'est pas étonnant, venant de celui qui de tout temps est, EST, amour. En son être, tout en étant un, Dieu est communautaire, de toute éternité, il y a relation d'amour entre les trois personnes et la Trinité. Dieu ne s'est jamais ennuyé avant notre création. Le Père a toujours aimé le Fils et inversement. Et c'est pour participer à cette vie de Dieu que nous avons été créés. C'est ce que le Seigneur de la vie veut pour nous. Nous sommes invités à entrer dans cette vie communautaire de Dieu, à cette danse. Et Jésus-Christ nous a ouvert l'accès, comme nous avons vu tout à l'heure. Comment allons-nous répondre à cette invitation, sachant que ce n'est pas nous qui avons lancé l'invitation, c'est Dieu qui est venu nous chercher. Pascal, il dit, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. Dans les Proverbes 8, on voit aussi la sagesse qui va dans les rues, qui appelle les gens. La sagesse pourrait se dire, la sagesse c'est personnifié par Jésus après, pourrait se dire, ils sont stupides, tant pis pour eux. Non, c'est Dieu qui vient nous chercher. Et ça continue tout au long de notre vie. Un autre proverbe nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est beaucoup une question de cœur. Demandons à Dieu la grâce de cultiver ou de retrouver un désir de sa présence, une soif de sa présence, un cœur tourné vers lui. Pour cela, la méditation ou la prière de certains psaumes peuvent nous y aider. Car on voit le psalmiste, soupirer après Dieu. Après le Dieu vivant. Donc on voit ça par contre, par exemple, dans le psaume 84 qu'on va lire. Alors, c'est un psaume où la présence de Dieu, la recherche de sa présence est particulièrement soulignée. Merci. La projection. Psaume 84. Au chef de chœur, un psaume des Coréites à chanter avec accompagnement de la harpe de Gath. Alors les Coréites, ce sont les descendants de Lévi, ils ont accès au temple où réside la présence de Dieu. Et ce sont les mêmes qui ont écrit aussi le psaume 42. Vous savez, le début, comme une biche soupire après un courant d'eau. Ainsi, mon âme a soif de toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. C'est un petit peu ce même thème qui va être repris dans le psaume 84, avec peut-être un accent plus appuyé sur le bonheur ou la bénédiction de cette proximité avec la présence de Dieu. Alors, on va lire le premier paragraphe. « Oh, comme tes demeures sont désirables, éternel, Seigneur des armées célestes. Je languis et je soupire, éternel, après tes parvis. Mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant. Le moineau découvre un gîte, l'hirondelle trouve un nid où déposer ses petits. Près de tes autels, éternel, Seigneur des armées célestes, mon roi et mon Dieu, bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer toujours. » On voit que ce premier paragraphe est carrément une déclaration d'amour du psalmiste avec son Dieu. Au verset 2, « Comme tes demeures sont désirables, éternel, Seigneur des armées célestes, il y a à la fois l'éternel, c'est-à-dire le Dieu de l'Alliance, celui qui a passé une relation avec son peuple, et aussi le Seigneur des armées célestes. Il est à la fois infini et personnel. » Et puis on voit que le psalmiste languit, soupire après ses parvis. Il y a un vocabulaire d'amour, c'est un chant d'amour. L'absence du bien-aimé, Dieu dans ce cas-là, fait soupirer le psalmiste qui aspire à une relation avec le Dieu vivant. Et autant le moineau est fait pour vivre dans son gîte et les petits de l'hirondelle dans leur nid, nous, nous sommes faits pour vivre dans la présence de Dieu. C'est cela notre raison d'être, c'est ce que souligne ce paragraphe. Tout comme nous avons besoin d'oxygène pour vivre, nous avons besoin de trouver notre joie dans la présence de Dieu. En Christ, c'est lui notre temple, actuellement, c'est lui qui réside, dans lequel réside pleinement Dieu. Et si on continue sur le deuxième paragraphe, après le premier « Bienheureux de ceux qui habitent ta maison » à la fin du premier paragraphe, « Bienheureux les hommes dont tu es la force, dans leur cœur ils trouvent des chemins tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis, et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît. Ils se présentent à Dieu en Sion. Éternel, ô Dieu des armées, entends ma prière, veuille m'écouter, ô Dieu de Jacob. Et là, on voit que dans la confusion de ce monde, ceux qui se réfugient en Dieu ont une direction, un chemin tracé dans leur cœur. Pourquoi ? Est-ce qu'ils sont plus malins, plus intelligents, plus forts ? Est-ce que c'est notre cas ? Non. Leur énergie, leur force, ils la trouvent en Dieu, en sa présence. Au verset 6, bienheureux les hommes dont tu es la force. Et lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, parce que cela arrive, parce que le fait de marcher avec Dieu ne nous épargne pas de toutes les difficultés de la vie, et bien à la fin, parce que Dieu est leur force, il va en ressortir une bénédiction. Au cours de leur pèlerinage, ils ont appris à connaître Dieu, quelles que soient leurs conditions du voyage, et leur vigueur s'accroît d'étape en étape. Dieu est leur force. Et c'est pour ça qu'à la fin, ils peuvent s'adresser à celui qui est à la fois infini, le Dieu des armées célestes qui gère tout l'univers, et en même temps qui prend soin d'eux, le Dieu de Jacob. Et pourquoi ils s'adressent à eux ? Parce qu'ils savent que Dieu va leur répondre. Quand il y a des prières comme ça où le psalmiste s'adresse à Dieu, il sait que Dieu va lui répondre. Il a l'assurance de l'écoute du Seigneur. On va finir par le dernier paragraphe. Toi, ô Dieu, qui notre bouclier, veuille regarder l'homme qui a reçu de ta part l'onction d'huile et lui faire un bon accueil. Car un jour dans tes parvis vaut bien mieux que mille ailleurs. Plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que de demeurer sous la tente des méchants. Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil, il est comme un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Éternel, Seigneur des armées célestes, bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. À nouveau, la présence de Dieu est considérée comme le bien suprême. Un jour dans tes parvis, par vie vaut mieux que mille ailleurs. L'Ecclésiaste, dans notre passage, dit « À quoi sert-il à un homme de vivre mille ans s'il ne connaît pas le bonheur ?» Et donc, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Il est ici question de la qualité d'une relation, de sa richesse. Pareillement, il est préférable de rester sur le seuil de la maison de Dieu que de demeurer sous la tente des méchants. La demeure des méchants n'est pas solide, c'est une tente. Celle de Dieu est une maison. Et même sur son seuil, c'est préférable. Au verset 10, au début, il est parlé de l'homme qui a reçu de ta part l'onction d'huile et de lui faire bon accueil. Eh bien, dans la nouvelle alliance, celui qui a reçu l'onction, c'est Jésus. Il est celui qui a eu la faveur de Dieu. Et nous, nous sommes en lui, nous sommes en Christ. C'est ce qui qualifie le plus le chrétien dans le Nouveau Testament. On est rarement appelé des chrétiens, par contre on est appelé des saints qui sont en Christ. Ce qui veut dire que nous bénéficions de la faveur de Dieu parce que nous sommes en Christ, il est notre bouclier. Au verset 12, à nouveau, il est le soleil, il est un soleil, un bouclier, il accorde bienveillance et joie. Ça veut dire que c'est une grâce, c'est lui le donateur. Et en même temps, juste après, elle est pour ceux qui cheminent dans l'intégrité, c'est-à-dire qui veulent marcher avec le Seigneur, pas pour ceux qui veulent demeurer sous la tente des méchants. Alors, je peux avoir une difficulté dans ma vie, lutter contre des péchés récurrents, on a tous nos faiblesses, mais chercher mon secours en Dieu. Par contre, si je décide sciemment de vivre dans le péché, Dieu ne va pas se rendre complice de mon péché en m'accordant sa bénédiction. Il va m'attirer à lui pour que je revienne à lui, mais il ne va pas se faire complice. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. C'est répété plusieurs fois dans les Écritures. À ceux qui s'entêtent dans des voies contraires à sa volonté. Mais par contre, sa grâce est toujours là pour ceux qui veulent marcher avec lui. Quand je dis trouver secours en Dieu, ça peut être aussi, et c'est souvent le cas autour avec des frères et sœurs, évidemment. Et à la fin du psaume, celui qui se confie en Dieu est déclaré bienheureux. C'est comme ça que se conclut ce psaume. Alors, peut-être que l'ambiance qui se dégage de ce psaume va en encourager certains quand ils vont le relire ou quand ils vont y repenser. Peut-être que, par contre, il va sembler trop victorieux pour ceux qui traversent une période difficile ou un temps de sécheresse dans leur communion avec Dieu. Même si ce psaume parle de vallée de larmes, de choix à faire pour l'intégrité, d'aspiration à chercher Dieu, peut-être que pour certains, ça ne va pas trop leur parler. Et peut-être trouveront-ils une aide plus appropriée dans le psaume 119, par exemple. Alors, ne vous inquiétez pas, on ne va pas le lire au complet. Il est un peu long. Mais par contre, ce psaume, qui est considéré comme un hymne à la parole de Dieu et à la loi, ce qu'il est, il est aussi avant tout une prière. Tous les psaumes sont des prières, une prière du psalmiste qui souhaite vivre selon la volonté de Dieu, mais qui se rend compte qu'il ne le peut pas par ses propres forces. Et je trouve que ce psaume, finalement, déborde de la vie du Saint-Esprit qui est très présente, même si elle n'est jamais nommément citée. Alors, quelques versets qui peuvent nous guider dans nos difficultés. Alors, le verset, il y en a plein, j'en ai relevé deux, le verset 36-37. « Veuille incliner mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers le profit matériel. Détourne mes regards des choses vaines et fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées. » On voit que là, le Seigneur, le psalmiste, sait que naturellement, à cause de son péché, il est attiré par des choses vaines qui ne procurent pas la vraie vie. On appelle ça l'idolâtrie quand on veut remplacer Dieu par quelque chose d'autre. Et il fait appel à Dieu pour qu'il initie ce désir de vivre dans sa volonté, pour qu'il crée en lui le vouloir et le faire, comme nous dit Philippiens. Et puis quatre versets que j'ai pris, du verset 25 au verset 29. « Je suis collé à la poussière, sauve ma vie selon ce que tu as promis. » Vous voyez, le psalmiste désire marcher avec Dieu. Mais c'est un peu comme dans les évangiles, le gars qui vient voir Jésus qui dit « Oui, je crois, viens en aide de mon incrédulité. » C'est un petit peu ce qui se passe pour le psalmiste. Il désire marcher avec Dieu, puis il se rend compte que ce n'est pas facile tous les jours. Et il demande l'aide de Dieu pour qu'il lui redonne cette envie. Verset 26, « Je t'ai exposé ma conduite et tu m'as répondu, apprends-moi tes commandements. » Là aussi, ça vient du Seigneur, c'est lui qui apprend. « Fais-moi discerner le chemin tracé par tes décrets pour que je réfléchisse à tes prodiges. Je suis accablé de chagrin, relève-moi conformément à ta parole. Détourne-moi du chemin du mensonge et dans ta grâce, fais que je vive selon ta loi. » Vous voyez, à la fois ce désir du psalmiste de marcher avec le Seigneur et toutes les difficultés qu'il expose au Seigneur, lui demandant d'agir dans son cœur afin de tourner son cœur vers lui. C'est aussi cela, cultiver une relation avec Dieu, c'est être authentique avec lui, lui exprimer honnêtement tel quel nos souhaits, nos désirs, nos luttes, nos difficultés, nos sentiments, toutes sortes de choses. Dieu sait tout cela. Alors cela peut être, ça peut avoir plusieurs aspects, ça peut être au long de nos journées, prier sans cesse, on dit l'apôtre Paul, ou en toute chose rendez grâce, ou faites connaître tous vos besoins à Dieu. Alors, il n'y a pas de domaine sacré d'autre qui ne concerne pas Dieu. Il est le Seigneur de tout dans nos vies, au travail, à la maison, en famille, dans nos amitiés, dans nos loisirs, dans nos difficultés, nos tentations, nos joies. Je suis appelé à vivre comme si Dieu était présent, parce qu'il est présent. Et m'accompagne. Mais ceci étant dit, je crois qu'on ne peut pas s'épargner de prendre du temps à part avec lui si on veut grandir dans notre relationnel, apprendre à le connaître. Alors, ce n'est pas ce qui va me faire gagner sa faveur de prendre du temps avec lui. Ce que dans nos milieux, on appelle souvent le culte personnel, c'est pas ça qui va me faire obtenir la faveur de Dieu. Le seul médiateur entre Dieu et moi, c'est Jésus-Christ et son œuvre accomplie pour moi à la croix. Mais par contre, même si ça ne me fait pas gagner la faveur de Dieu, c'est un moyen de grâce pour le connaître. Il faut le voir comme ça. Dieu nous invite à le connaître et il nous invite à prendre des temps avec lui. Alors, si je ne prends jamais de temps pour parler avec ma femme, eh bien, ma relation avec elle, elle va en souffrir. Elle va se refroidir, voire s'éteindre. C'est quelque chose de vivant, de dynamique, une relation. C'est pareil pour une amitié, cela s'entretient, comme toutes nos relations. Et c'est pareil avec Dieu, avec le Dieu vivant. Le Saint-Esprit qui demeure en nous peut être réjoui ou attristé. Et le Seigneur, plusieurs fois dans sa parole, nous exhorte à demeurer dans son amour. Jésus nous invite à des moments mis à part pour la prière. Matthieu 6:6, « Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille la porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit dans ce lieu secret te le rendra. » Dans ce verset, il est question d'intimité, de vie cachée avec Dieu, qui va nourrir et colorer toute notre journée par la suite. Mais ce sont des temps à part où l'on apprend à connaître notre Père. on ne peut pas s'épargner ces temps-là si l'on désire, et ce désir peut s'alimenter, comme on l'a vu, grandir dans notre connaissance de Dieu. Et ton Père, qui est dans le lieu secret, te le rendra. Il y a une promesse à la clé de ça. Nous pouvons chercher Dieu, sa présence, avec la certitude qu'il va se révéler à nous, qu'il va nous répondre, nous écouter. Dieu se révèle toujours à ceux qu'il cherche. Mettez Dieu au défi de prendre un temps avec lui. Vous verrez qu'il va répondre à ce défi, il va se révéler à vous. Beaucoup l'expérimentent déjà, hein, mais pour ceux qui ont envie de l'expérimenter. Et ce même Jésus qui enseigne cela, l'a lui-même expérimenté dans sa vie terrestre. Et cela est noté à plusieurs fois, reprises dans les évangiles. Alors qu'il était parfait, il était sans péché, mais il, tout simplement, il aimait passer du temps avec son Père, prendre du temps avec lui. Je citais un seul verset, hein, Matthieu 14, verset 23. Quand tout le monde, c'est après un moment où il y a eu beaucoup d'intensité, Jésus au milieu de la foule, il va prendre un temps à l'écart. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il est tout seul. Il est seul comme être humain, mais en présence de son Père. Donc, on arrive à la fin du message. Alors, dans ce message, je n'ai pas vraiment donné de technique pour passer du temps avec Dieu. C'était plus communiquer une vision pour que nos cœurs soient tournés vers le Seigneur, hein, qu'on désire cultiver notre communion avec Dieu, mettre des temps à part à lui pour le connaître. Mais la forme de ces moments-là peut varier d'une personne à l'autre. Hein. Alors, peut-être certains vont introduire ces moments passés avec Dieu par des chants de louange parce qu'ils sont plus sensibles. D'autres, ils vont prier dans un lieu spécial, ils ont leur lieu spécial chez eux. D'autres, ça va être peut-être en marchant. D'autres, ils aiment se retirer dans la nature. D'autres, ça va être, ils vont prendre des moments de prière dans leur voiture. Il n'y a pas de forme précise. Ça va être souvent le matin, certains le soir, d'autres les deux. Alors, personnellement, alors ce n'est que mon expérience, c'est pas là, voilà, je vous partage rapidement mon expérience. Moi, j'aime bien prendre des temps le matin. J'y arrive pas tous les jours, et quand j'y arrive pas, j'en fais pas un drame. Mais franchement, je préfère. Ça me manque aussi. Personnellement, je commence souvent par une prière courte avant d'ouvrir ma Bible pour un temps de lecture. Et après, je me mets à l'écoute de Dieu dans sa parole. Et je préfère faire cela dans ce sens, parce que cela va nourrir le temps de prière qui va suivre. Je commence par l'écoute de la parole, et puis je continue par un temps de prière. Voilà. Mais comme je vous dis, c'est juste une expérience personnelle. On peut avoir différentes manières de prendre ce temps avec le Seigneur. Mais quelle que soit la forme, il est clair que le Seigneur désire passer du temps avec nous, pas parce qu'il a besoin de nous. Comme je vous dis, il a toujours été satisfait en lui-même. Il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça allait très très bien. C'est par amour qu'il nous a créés et par amour qu'il veut passer du temps avec nous, et il nous invite à répondre à cet amour. Prions. Seigneur de la vie, Père, tu es un Dieu vivant avec qui nous pouvons avoir une relation vivante, et tu as tout fait jusqu'à venir mourir pour nous afin que nous retrouvions une communion avec toi. Que nous ayons à nouveau accès à cet arbre de vie, Seigneur, dès maintenant et pleinement dans l'éternité avec toi. Merci pour cela. Merci de nourrir en moi, de nourrir en nous un désir plus grand de te connaître et de nous laisser transformer toujours plus à ton image dans ces moments d'intimité avec toi, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous accompagne, qui nous guide. Merci pour les frères et sœurs. Merci pour toutes les ressources et les moyens de grâce que tu as mis à ta disposition. Et merci pour ta présence, Seigneur. Amen.